écrit l'ICI avec le CIALA. C-I-A-L-A.
Collectif interculturel d'auteurs de Loire-Atlantique.
Rencontrer un auteur, ça vous dit ?
Alors retrouvez-nous le deuxième mercredi du mois à 17h30 sur Jet FM 91.2 et le quatrième mercredi du mois, toujours à 17h30, toujours sur Jet FM 91.2.
Ou en podcast sur jetfm.fr.
Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Martine.
Bonjour.
Bonjour André.
Bonjour.
Et bonjour Aline Duré.
Bonjour à tous.
Écrit d'ici, l'émission qui donne la parole aux auteurs, reçoit aujourd'hui Aline Duré. Merci Aline d'être avec nous. Nous allons passer quelques moments ensemble pour échanger à propos de votre roman qui s'intitule « Elle s'en repentira », paru en 2022 aux éditions Palémon. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce roman est le dernier d'une trilogie. Les deux autres ouvrages de cette trilogie, nous avons le numéro 1 qui s'appelle « Les ombres de l'Erdre », mais qui est paru initialement en auto-édition en 2018 sous le titre « La loi du talion », et « Le manoir des secrets », paru initialement lui aussi sous un autre titre en auto-édition, et il s'intitulait « L'ombre du Santal » en 2020. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est donc ce dernier opus, « Elle s'en repentira ». Alors, nous avons la fâcheuse habitude d'avoir une petite question introductive fétiche. C'est un peu la place de la lecture et de l'écriture dans votre vie, dans vos activités. Vous êtes prof de littérature et j'ai lu dans un entretien que vous aviez eu avec Sylvie Poisson que vous expliquiez être venu à l'écriture un peu naturellement, hein, issu d'un milieu ouvrier, modeste, pas forcément les moyens d'acheter des livres, dont vous étiez fasciné, et vous expliquez une démarche un peu spontanée, naturelle. Alors bon, ça donnerait à penser que voilà, c'est finalement assez aisé, ça ne demande pas de travail. Donc on voulait vous entendre sur ce point-là avant d'échanger sur le contenu de votre ouvrage.
Oui, tout à fait. Depuis toute petite, j'ai vraiment le goût, la passion des livres, de lire, mais aussi d'écrire. J'ai une imagination débordante que je nourris en consultant la presse. C'est ce que je vous disais en préparation de l'émission. J'ai chez moi une petite boîte dans laquelle je range tous les faits divers que je peux découper et qui m'interpellent. Donc j'écris beaucoup, mais je ne publie pas tout ce que j'écris, hein, puisque ça ne mérite pas d'être lu. Mais j'ai ce besoin d'écrire, et même parfois la nuit, je me réveille et j'ai des idées. Donc il faut absolument que je les note, parce que je pense que vous vivez la même chose que moi. Quand elles passent, ces idées, on ne les retrouve plus. Et on se dit, ah mince, ça a été bien, mais on n'arrive plus à remonter jusqu'à cette idée. Donc maintenant, j'ai pris cette habitude. J'ai plein de carnets, j'ai une vingtaine de carnets chez moi, dans des boîtes où je note des idées de futurs romans. Donc, et là, je commence à m'angoisser parce que je me rends compte qu'il va me valoir plus d'une vie pour écrire toutes les histoires qui doivent sortir, en fait.
Merci beaucoup.
Alors, donc, ce roman, Elle s'en repentira, se déroule essentiellement à Carquefou, dans la banlieue nord de Nantes. Cassidy Higgins est très liée à Camille, qui est mariée avec Gabriel. Cassidy, qui a des ambitions de détective et de redresseuse de tort, a découvert que Gabriel trompe Camille et en a fait part à son amie. Au même moment, Camille disparaît. Le comportement ambigu de Gabriel incite Cassidy à se rendre à la gendarmerie, qui ne donne pas suite. Mais le corps d'une femme retrouvée noyée va lancer l'enquête à laquelle Cassidy participe activement aux côtés du gendarme Adrien. Je n'en dévoilerai pas plus, évidemment. André nous fait une première lecture.
Contre toute attente, Camille avait pris la défense de son mari. Depuis la naissance de leur fille, elle avait délaissé son rôle de femme au profit de celui de mère. Il n'y avait donc rien d'étonnant à ce que Gabriel soit allé voir ailleurs. Cassidy avait objecté que ce n'était pas la première fois que Gabriel donnait des coups de canif à leur contrat de mariage. les yeux luisants, Camille était montée au créneau. Ma relation avec Gabriel ne regarde que moi. Les joues enflammées. Camille s'était levée de table. Elle avait balayé tous les clichés du revers de la main et avait quitté la terrasse du restaurant sans un mot. Depuis, Cassidy était sans nouvelles. Cela faisait une semaine jour pour jour. Affectée par ce silence inhabituel, elle avait tenté de joindre Camille à plusieurs reprises, en vain. Cassidy ne se serait pas inquiété outre mesure s'il n'y avait pas eu ces visions. Au début, il s'agissait d'impressions fugaces, d'effets de lumière miroitante. Au fil des nuits, les images avaient gagné en précision. Elles s'étaient assemblées pour composer une sorte de tableau impressionniste au centre duquel elle percevait une tache claire en forme d'étoile. Elle s'était efforcée de donner un sens à ses visions, croquant sur un carnet ce qu'elle entrevoyait durant son sommeil. Tous les dessins, sans exception, représentaient le corps nu d'une femme. La silhouette longiligne et la peau de nacre flottaient au-dessus d'une masse sombre, bras et jambes écartés. Elle avait acquis la certitude qu'il s'agissait de Camille. Ce n'était pas la première fois qu'elle était sujette à ces étranges manifestations. Depuis l'explosion accidentelle qui avait dévasté son appartement 5 ans plus tôt, elle avait développé une forme de prescience, une aptitude à prévoir certains événements. Cassidy avait consulté une énergéticienne. Cette dernière lui avait expliqué que ce don était inné. Le choc traumatique lié à la déflagration avait joué le rôle de catalyseur. Outre les rêves prémonitoires, Cassidy avait développé une grande sensibilité aux énergies, qu'elles soient positives ou négatives. Plusieurs séances avaient été nécessaires pour apprendre à vivre avec cette anomalie. C'est ainsi qu'elle qualifiait ce 6e sens qui bouleversait son existence.
Alors, vous l'aurez peut-être compris à travers le résumé de Martine et la première lecture d'André, Aline Duré donne dans le polar. Donc, c'est un genre tout à fait particulier. Alors, peut-être qu'elle pourra aussi s'exprimer pourquoi ce choix, hein. On a compris l'appétit pour l'écriture, mais pourquoi le choix du polar? Ça, c'est la première question, à laquelle je vais en associer une deuxième. André vient nous décrire un personnage, Cassidy, hein, qui a une anomalie ou une forme de préscience. La question, c'était quelle était votre intention littéraire en prêtant ce type de particularité à ce personnage assez central dans l'intrigue ?
Alors, je vais répondre à votre première question.
Je vous en prie.
Depuis l'enfance, je désirais ardemment devenir gendarme. Malheureusement, j'ai une maladie génétique qui affecte ma vue, donc j'aurais fait un très mauvais gendarme, j'aurais laissé les voleurs s'enfuir. Je me suis tournée vers l'enseignement, mais tout naturellement. Mais j'ai gardé toujours ce fil, cette vocation au fond de moi. J'ai toujours eu ce sentiment de vouloir défendre les opprimés, de vouloir réparer les injustices. Et donc, c'est d'où l'intérêt que j'ai pour regarder les séries policières, lire des romans policiers, m'intéresser à la presse, au procès. Donc voilà, tout naturellement, je suis venue à l'écriture. Finalement, écrire des romans policiers, pour moi, c'est combiner deux vocations que j'avais, c'est-à-dire celle d'être gendarme et celle aussi de transmettre la passion de la lecture à mes élèves. Et maintenant, j'essaye de le faire en écrivant des histoires. Et ce qui me plaît le plus maintenant, c'est quand je rencontre des personnes. Alors maintenant, les gens commencent un petit peu à me reconnaître dans la rue sans faire de fausse modestie, mais on me parle de mes personnages, d'Adrien notamment, et je trouve ça chouette parce que je me rends compte que les gens, ils accrochent, ils adhèrent à ces personnages et à mon univers, et ça nous permet d'avoir des moments de partage, même dans la rue. Je me souviens d'une petite mamie qui m'avait arrêtée avec son vélo. Moi, j'étais avec le mien. « Ah, vous êtes Aline Duré. Je voulais vous dire, j'ai eu le petit béguin pour Adrien. » Et moi, je trouve ça chouette. Ou des personnes qui me disent « Eh bien, pendant 2 jours, j'ai laissé mon ménage de côté pour pouvoir terminer votre roman. » Et c'est exactement, en fait, ce qui me motive quand j'écris, quand j'ai ces grands moments de solitude chez moi. Je me dis « Mais pourquoi je fais ça ?» Parce que ça me prend du temps sur ma vie. Ça me prend du temps avec mes enfants, avec mon conjoint, et parfois même la nuit sur mon sommeil. Mais c'est la récompense pour moi, c'est de pouvoir avoir ce temps d'échange après avec les lecteurs qui suivent les aventures de mes héros. La deuxième question concernant la préscience. Alors, il faut savoir que je suis quelqu'un d'extrêmement rationnel. Enfin, en tout cas, j'étais quelqu'un d'extrêmement rationnel. Et en vieillissant, c'est comme le bon vin, je pense, on se bonifie. J'ai commencé à revenir sur mes positions. Je n'ai pas la prétention de savoir qu'il n'y a rien au-delà du visible, au-delà du monde sensible. Et donc, je me suis intéressée, je me suis documentée sur toutes ces choses que je ne connais pas. Et voilà comment le personnage de Cassidy, finalement, s'est imposé à moi. Et c'est un personnage qu'on va retrouver, d'ailleurs, dans mes autres ouvrages qui sont en écriture.
Merci beaucoup. On avait une autre question. Donc, la particularité du roman, c'est que l'action est située dans une ville proche de chez nous. Donc, les Nantais connaissent Carquefou. Mais pour un public plus large, c'est vrai que c'est une commune relativement petite. Les Carquefoliens et Carquefoliennes ne m'en voudront pas de la situer comme ça. Là encore, c'était l'idée de savoir si vous aviez une intention particulière pour situer l'action, l'intrigue dans cette ville, ou si c'est parce que, auteur nantaise, vous avez choisi une localité qui parle aux lecteurs locaux.
Alors, j'écris sur ma commune parce que j'écris surtout sur ce que je connais. Ça fait 47 ans que je déambule dans les rues de Carquefou. Je maîtrise à peu près chaque recoin, chaque sentier, puisque je me promène énormément. C'est là aussi dans la nature que je puise mon inspiration. Donc, je ne cherche pas à faire connaître la commune de Carquefou. Simplement, comme je l'ai parfaitement en tête, en fermant les yeux, j'arrive à me représenter les rues et que je suis incapable finalement d'écrire sur un lieu que je ne connais pas. Dans mon deuxième roman, on voyage en Auvergne, dans le Cantal, précisément Aurillac, et dans un petit village qui s'appelle Vercuère. J'y ai passé 18 ans pendant toutes les vacances avec mes parents et si je ferme les yeux, je vois encore ce petit pont de pierre qu'on traversait sur la rivière. Donc, je ne peux pas écrire sur ce que je ne connais pas. J'ai envie d'écrire un livre sur l'Écosse. J'y suis déjà allée, mais pour pouvoir écrire ce livre, il va falloir que je retourne en Écosse.
Merci beaucoup.
Alors, c'est le moment de la pause musicale. Aline Duré a choisi La jument de Michao par Triane.
C'est dans 10 ans, je m'en irai, j'entends le loup, le renard chanter.
C'est dans 10 ans, je m'en irai, j'entends le loup, le renard chanter.
Et j'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup, le renard chanter.
Et j'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter.
C'est dans 9 ans, je m'en irai, la jument de Michao a passé dans le pré. La jument de Michao, sans petit poulain, a passé dans le pré, manger tout le foin.
La jument de Michao et son petit poulain.
Elle s'en repentira.
Ah, l'hiver viendra, l'hiver viendra. La jument de Michao, elle s'en repentira.
J'entends le loup, le renard chanter.
J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard.
passé dans le pré. La jument de Michaud, son petit poulain a passé dans le pré. Elle mangeait tout le foin.
La jument de Michaud et son petit poulain a passé dans le pré. Mangeait tout le foin.
L'hiver viendra, les grands l'hiver viendra. La jument de Michaud, elle s'en repentira.
L'hiver viendra, les grands l'hiver viendra. La jument de Michaud, elle s'en repentira.
C'est dans deux ans, je m'en irai chantant le loup, le renard chanté.
C'est dans deux ans.
J'entends le loup, le renard chanter.
J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter.
C'est dans un an, je m'en irai. La jument de Michaud a passé dans le pré. La jument de Michaud, son petit poulain a passé dans le pré. Elle mange tout le foin.
La jument de Michaud et son petit poulain a passé dans le pré. Mange tout le foin.
L'hiver viendra, les grands l'hiver viendra. La jument de Michaud, elle s'en va vendre.
L'hiver viendra, les grands l'hiver viendra. La jument de Michaud, elle s'en
repentira. Vous êtes bien sur Jet FM 91.2 dans l'émission du Ciel à écrit d'ici. Nous sommes en compagnie d'Aline Duret pour son roman Elle s'en repentira. Donc c'est maintenant à André pour son deuxième extrait.
L'enquête ne fait que commencer. Gabriel Mancini vient d'être placé en garde à vue, annonça Adrien d'une voix grave. Cassidy se mordit les lèvres sous l'effet de la surprise. Le gendarme se pencha en avant. « Ce que je vous dis ne sortira pas de cette pièce, entendu ?» Elle hocha vivement le menton. « Avant de partir, j'ai demandé à voir le véhicule. L'habitacle était nickel, pas la moindre fibre, pas le moindre cheveu. En revanche, dans le coffre, le tapis était imprégné d'une odeur âcre. Il avait été souillé par de l'urine. Gabriel Mancini est devenu nerveux et il n'a pu me fournir aucune explication. J'ai obtenu l'accord du parquet de Nantes pour une ouverture d'enquête. Nous avons perquisitionné le domicile au début d'après-midi. Vous avez trouvé quelque chose ? Dites-moi. Le luminol a permis de mettre en évidence des projections de sang dans la cuisine, au niveau de l'un des barreaux d'une chaise. Les prélèvements étaient envoyés au laboratoire pour être comparés à l'ADN de votre ami. Nous devrions recevoir les résultats demain dans la matinée. Vous pensez qu'il s'agit du sang de... Elle n'eut pas la force d'achever sa phrase. J'ai quelques doutes à ce sujet. Selon les techniciens, les projections sont récentes, une vingtaine d'heures tout au plus. Or, votre ami a disparu depuis une semaine. Gabriel vous a donné une explication ? Non. Gabriel avait été incapable d'en fournir une aux enquêteurs, pas plus que pour le tapis du coffre. Des prélèvements effectués sur place par l'équipe de la police scientifique avaient révélé qu'il s'agissait bien d'urine provenant d'un être humain. Ils attestaient qu'un corps avait certainement séjourné dans le coffre de la voiture de Camille.
Alors, moi, j'ai une question à propos du personnage de Cassidy, justement, qu'on voit s'introduire dans la maison de Gabriel. Un peu plus avant, qui prend des photos à l'insu de Gabriel. Même Adrien lui dit que s'immiscer comme ça dans la vie des gens, c'est un peu curieux. Et donc en fait, ça en fait un personnage à la fois plein de sollicitude pour son ami, certes, mais qui, par ses agissements, qui n'est pas toujours très sympathique. Donc voilà, c'était un peu, enfin, pour moi en tout cas, hein. Après je ne sais pas, voilà, ça concernait ce personnage.
Oui, en effet, comme la plupart de mes personnages, Cassidy est un peu ambivalente. Elle peut se montrer parfois détestable, enfin le mot un peu fort, mais aussi on peut éprouver beaucoup de sympathie pour ce personnage. Alors il faut savoir qu'elle est agent de recouvrement et qu'elle a déjà l'habitude de fouiller dans la vie des gens. Et puis elle a aussi, comme Adrien, un penchant pour tout ce qui relève des métiers de détective privé, par exemple, et on la retrouvera plus tard, après ce roman, dans cette posture. Mais il faut savoir qu'elle agit principalement pour protéger son amie avec laquelle elle a grandi, qu'elle considère pour ainsi dire comme sa sœur. Donc elle n'y voyait pas... il n'y avait pas d'intention malsaine en fait en suivant son mari. C'était vraiment pour lui ouvrir les yeux. Ce n'était pas la première fois qu'il trompait sa femme. Et donc elle a voulu en fait précipiter la séparation du couple pour le bien de son amie.
Merci. Alors, à la fois en marge du contenu de votre roman, mais pas que, vous l'avez évoqué tout à l'heure, hein, vous êtes atteinte d'une maladie orpheline qui attaque votre acuité visuelle et donc qui fait de vous ce qu'on appelle communément aujourd'hui une personne malvoyante. Vous militez beaucoup pour l'édition en gros caractères, qui effectivement n'est pas très répandue, pour l'accessibilité donc au plus grand nombre à la lecture. Et on voulait vous permettre peut-être d'en dire quelque chose à l'antenne, c'est l'occasion.
Oui, je vous remercie. Donc, en effet, depuis ma naissance, je suis atteinte d'une maladie dégénérative qui affecte ma vue. Dégénérative, ça veut dire que progressivement, je perds la vue. Donc, grosso modo, là, il me reste à peu près 1,5 dixième avec correction, donc lentilles ou lunettes. Donc, c'est peu. C'est peu, mais j'essaie aussi de montrer que même avec peu, même avec un handicap aussi lourd que le mien, on peut quand même vivre ses rêves. Et mes rêves, bon, bien sûr, je ne peux pas être gendarme, mais au moins, je peux écrire des livres et je peux transporter... les lecteurs dans un univers qui va leur apporter une petite bulle d'oxygène. Moi-même, quand je veux lire, je me retrouve face à un sérieux problème que rencontre finalement 10% de la population, c'est-à-dire trouver des livres adaptés. Alors, on va nous répondre, écoutez des livres audio. Alors moi, j'adore, par exemple, La Voix d'André. Tout à l'heure, je trouve qu'il lit extrêmement bien les textes. Et j'ai même eu l'impression que ce n'était pas moi qui avais écrit le texte. Donc, j'avais envie d'écouter la fin, finalement.
C'est pas la première fois qu'on nous dit ça, en fait.
Écoutez, c'est ce que je ressens. Donc oui, les livres audio, c'est bien. Moi, tous les soirs, j'écoute des livres audio puisque je ne peux pas lire, en effet. Mais ça relève du domaine de l'interprétation. La personne y met ses sentiments. Par la voix, on transpose des émotions. Alors que moi, j'aime découvrir, comme de très nombreux lecteurs, pour avoir échangé avec des gens concernés par la déficience visuelle ou la fatigue visuelle, on aime pouvoir tourner les pages, sentir l'odeur du papier. Et ça, ce n'est pas remplaçable. Et j'insiste vraiment, parce qu'on y dit toujours, écouter des livres audio, ça n'a rien à voir, vraiment. De même, pour la liseuse, moi, j'ai besoin de tellement grossir la taille des lettres que finalement, je n'ai plus la syntaxe entière de la phrase. Alors, c'est peut-être une déformation professionnelle parce que je suis enseignante en littérature, mais j'aime bien voir la beauté de la phrase. De même que les mots ont une image, les phrases ont aussi une image, une construction. Donc, je trouve ça dommage de priver 10% de la population de ce plaisir, en fait, de la lecture, de ce contact. Vous savez, des gens qui ne prêtent pas leurs livres, ils les gardent amoureusement chez eux, dans leur bibliothèque. Et ça, c'est important. On ne peut pas le faire avec un livre audio. On ne peut pas le faire avec une liseuse. Moi, je n'ai pas d'émotion quand je lis une histoire sur un objet comme ça, dématérialisé. Et donc, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, moi, quand je veux lire... Eh bien, soit je me contente des quelques exemplaires qu'il y a dans les librairies, c'est-à-dire 10 contre 50 000 références en général pour les bien-voyants, ou alors je prends ma loupe et je fais tout à la main. Autant dire que c'est fastidieux. Et puis moi, je suis encore relativement jeune, mais je pense aux personnes âgées qui ne peuvent pas porter la loupe, lire le livre. Donc, qu'est-ce qu'elles font ? Elles abandonnent la lecture et on les met devant la télévision. Donc, j'aimerais vraiment... Mon plus grand souhait, finalement, ce serait que... Alors, je sais que c'est un peu illusoire, mais c'est beau de rêver. De toute façon, un écrivain rêve. Mon plus grand rêve, ce serait que chaque fois qu'un livre sort, il y ait une petite quantité qui soit déclinée en version adaptée et qu'on puisse les trouver assez facilement. Parce que des livres grands caractères, on peut en commander plein sur les plateformes en ligne, mais un malvoyant ne va pas sur Internet. Moi, quand je vais sur mon ordinateur, j'ai un zoom texte et je vois un quart de l'écran. À chaque fois, c'est la croix et la bannière pour aller chercher des infos. Donc voilà, ça serait un bon geste d'inclusion que de penser à chaque fois, voilà, il y a ce livre qui sort, il sort aussi. Quelques exemplaires seront disponibles en grand caractère.
Merci beaucoup et j'espère qu'effectivement vous serez entendu et qu'on arrivera à ce que cette réalité change.
Oui, alors moi justement j'ai une question à propos des éditeurs. Parce que du coup là ce serait le rôle des éditeurs de faire ce que vous proposez.
Oui, tout à fait. J'ai été contactée l'été dernier par les éditions du Palémon, par Delphine Hamon, qui m'a dit, Aline Duret, on a lu vos manuscrits et on souhaiterait travailler avec vous. J'en ai profité pour leur dire, écoutez, je suis auteur, mais je suis aussi une personne très malvoyante. Et j'aimerais, si cela vous est possible, que vous proposiez à vos lecteurs mes romans en version grand caractère. Donc, l'éditeur m'a rappelé une semaine plus tard en me disant, c'est bon, on se lance dans l'aventure des grands caractères. Je sais que ça leur a coûté en termes, en termes financiers, mais aussi en termes de logistique. Mais ils ont fait cet effort de décliner chacun de mes romans, Les Ondes de l'air, Le Manoir des secrets et Elle s'en repentira en grand caractère, mais aussi d'autres auteurs, et je pense notamment à Jean Fayer, que je salue au passage, qui rend désormais ses livres accessibles. L'Ange déchu de Brocéliande la vient de paraître en grand caractère, et tant mieux, j'ai envie de dire, parce que les lecteurs aussi qui suivent, on va dire depuis des décennies, les enquêtes de Marie Lester, eh bien, peut-être que ces personnes aussi ont une vue qui décline avec l'âge, puisque ça fait longtemps qu'il écrit. Et donc, maintenant, elles vont pouvoir, ces personnes, continuer à suivre les aventures de Marie Lester.
Merci beaucoup. Avant la conclusion de Martine, peut-être Aline Duret, voulez-vous rajouter quelque chose ?
Oui, tout à l'heure, j'ai parlé de la déficience visuelle. Je souhaiterais juste en profiter pour remercier Jean-Louis Jossic du groupe Triane, que vos auditeurs connaissent probablement. On a écouté tout à l'heure un petit morceau de la chanson « La jument de Michaud ». Donc le titre de mon roman « Elle s'en repentira » vient de cette chanson qui a bercé mon enfance. Donc voilà, je tiens à saluer Jean-Louis, puisque Jean-Louis a préfacé ce troisième volume en soutien à ma démarche d'accessibilité au livre. Voilà.
Merci beaucoup.
Eh bien, merci Aline d'être venue. Donc, nous nous retrouverons en janvier 2023, là maintenant. Dans l'attente, nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année, évidemment, avec plein de livres au pied du sapin. Pour finir, Aline Duret a choisi Un loco con una moto par le groupe Pupi y los que son. Son.
Oye, oye. Oye, ¿qué se le va a hacer? Un crazy que sabe querer, que se sala de fiesta, no se puede contener. Tírame un lookie, te amo con pupi. Siempre alegre, siempre cookie. ¡Ja! I love you to you, yo soy más crazy que tú. Prenda la music, apague la luz. Que voy a pasar tu paso por Bluetooth. Siempre viven comentando y pendientes a mi vida. Pero no les hago caso, así se pasa.
Los primeros de Europa, los primeros de Europa. Prendez-le.